Vous écoutez RTL.
RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Faugier.
19h18 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste, administratrice du réseau européen contre le racisme. Bonsoir Orkaïa Diallo.
Bonsoir.
Auteur d'un dernier livre, Paris d'amis, aux éditions Delcourt. Une bande dessinée qui vous met en scène d'une certaine manière.
Oui, d'autres trentenaires.
Autour de la table d'En refait le monde, Daniel Bilalian, directeur général adjoint en charge des sports à France Télévisions. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Gaël Sliman, président de l'Institut de sondage Odoxa. Bonsoir.
Bonsoir.
Et le rédacteur en chef au Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson. Bonsoir.
Bonsoir.
Le cadeau empoisonné des mairies, plus 15% à Toulouse, plus 10% à Lille. Les grandes villes vont donc augmenter, vous le savez, vos impôts locaux, contrairement à ce qu'avait promis beaucoup de maires pendant la campagne municipale. Pour eux, c'est la faute à l'État qui a réduit sa dotation. Pour l'État, c'est la faute aux collectivités locales trop dépensières qui ne savent pas donc gérer leur budget. Et pour vous, qui est responsable de cette hausse sur les réseaux sociaux? Benoît Galeret, bonsoir.
Bonsoir, on est assez fataliste déjà. Hausse sans surprise de toute façon, soupire proto. À chaque fois que les élections sont passées, la mauvaise nouvelle tombe. Arf, complète has-been. Moi, président, nous avait vendu ni impôts nouveaux, ni augmentation des impôts existants. Ah bah c'est réussi, grince Jacques. Mais les maires savaient qu'il allait avoir des coupes. C'était d'annoncer, répond Pierre. Ils n'avaient qu'à réduire leur train de vie. Maire, regroupez-vous avec les villes voisines pour vos achats. Cessez de faire des ronds-points aussi hideux qu'inutiles et organiser des réceptions, conseille Pascal. Ah ouais, mais au fait, elle est où la réforme territoriale qui devait permettre de grosses économies, rétorque Federico. Pour Annie aussi, la faute à l'État. Les collectivités territoriales, elles ont changé de camp. La gauche leur coupe les vivres, accuse-t-elle. Mais Roger préfère brocarder ses maires UMP qui préconisent le serrage de ceinture de l'État mais conduisent des politiques dispendieuses dans leur collectivité. Le responsable frontiste Florian Philippot se vante sur Twitter de n'enregistrer aucune hausse en 2 ans dans les villes FN et même des baisses. Facile quand on sape le service public et qu'on préfère entretenir son électorat que de prendre des décisions responsables, lui rétorque Romain, pendant renchérit que quand on coupe toutes les subventions, il n'y a pas besoin d'avoir d'impôts. Ah si, pour les 40% de hausse de salaire du maire, dit-il. Tigre Bleu enfin se méfie des municipalités qui font le choix de prélever peu, mais endettent les générations futures jusqu'à l'aberration. Avant de brailler comme des putois, dit-il, on ferait mieux de comparer les endettements que les hausses d'impôts.
Allez, Daniel Bilalian, donc la balle au centre, zéro partout, comme au sport, la faute à qui? Aux municipalités qui ne savent pas gérer, ou à l'État qui ne donne pas assez?
Je m'aperçois que le même jour, le ministre des Finances, M. Sapin, annonce officiellement que 3 millions de Français ne paieront plus l'impôt d'un côté, et puis d'un autre côté, il y a une hausse des impôts locaux. Alors, baisse d'un côté, hausse de l'autre, j'avoue que je comprends pas. C'est le résultat nul, je veux dire. On peut pas annoncer des... Il fallait pas baisser les impôts, ça aurait évité peut-être, en partie, d'éviter une hausse des impôts locaux. D'autant que moi, sur le problème des impôts directs, j'ai toujours eu le même avis. Je pense que tout le monde doit payer l'impôt direct, ne serait-ce qu'un euro, parce qu'on appartient à une communauté, et que le fait de... Je ne comprends pas que les gens ne s'élèvent pas contre la suppression de l'impôt pour un certain nombre de gens, même minimum, ne serait-ce que pour appartenir à quelque chose. Alors, ce qui est vrai aussi, ça me rappelle un sketch des Chevaliers du Fiel, c'est-à-dire les feuilles râteaux, c'est-à-dire les employés municipaux des collectivités locales, la fonction publique locale. C'est vrai qu'elle n'est pas en déshérence et qu'il y a peut-être là des efforts à faire.
Gaël Sliman, est-ce que finalement les collectivités locales ne devraient pas à un moment donné ne pas toujours attendre les dotations et un peu mieux gérer?
Certainement, mais quand on regarde la liste des villes et la liste des augmentations d'impôts qui sont concernées, il y a sans doute autre chose derrière tout ça. C'est-à-dire que les dotations de l'État aux collectivités, même si elles avaient pu, si elles auraient pu l'anticiper un petit peu plus, sont probablement insuffisantes. Mais surtout, ça va rentrer en contradiction avec la dernière promesse forte qu'avait faite François Hollande lors de sa conférence de presse de novembre, au moment où il était vraiment au fond du trou en termes de popularité, battant tous les records historiques d'impopularité pour un président. Il avait promis, souvenez-vous, qu'à partir de 2015, il n'y aurait pas d'impôt supplémentaire pour qui que ce soit jusqu'en 2017.
Oui, mais vous l'avez entendu dans le journal de 19h, il dit « c'est pas de ma faute ».
Mais la conséquence...
Comment ça, c'est honteux de dire ça?
Au-delà du jugement, moi je porte pas de jugement de par ma fonction de sondeur, c'est pas le jeu, c'est pas le but. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait eu une promesse très forte, qui était celle de l'inversion de la courbe du chômage, qui avait fortement marqué les esprits. Il y a une deuxième promesse forte, qui est celle de cette fiscalité qui semblait trop pesante pour les Français, avant même la promesse qui avait été faite en novembre dernier. Ça fait deux promesses, du coup, qui ne sont pas tenues, et dont une partie, au moins, sera mise sous la responsabilité de François Hollande par une partie de l'opinion publique. Donc c'est une mauvaise nouvelle, peut-être pour les maires concernés, probablement, qui pour beaucoup s'était fait élire en promettant qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts et eux savaient très bien qu'ils les augmenteraient pourtant. Et puis, c'est encore une mauvaise nouvelle pour François Hollande. Alors, un seul petit bémol quand même, Marco, on avait testé à Odoxa en novembre dernier ce qu'en pensaient les Français. Les trois quarts d'entre eux ne croyaient pas en cette promesse de non-augmentation des impôts. Donc au moins, ils ne seront pas déçus.
Mais Jean-Christophe Buisson, j'entendais ce matin à la radio un maire dire, à un moment donné, il faut peut-être que les Français attendent autre chose de la mairie. Il faisait un exemple avec la Grande-Bretagne, où la cantine n'est pas prise en charge par les municipalités. On demande aux enfants de venir avec leur sandwich, par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas une révolution? Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne paye qu'une partie du coût de la cantine, le reste c'est les municipalités qui le payent. Donc peut-être qu'il faut accepter aujourd'hui de voir les choses un peu autrement.
Oui, de toute façon, je pense qu'on a pris un peu trop l'habitude en France d'être, de compter sur l'État ou sur les collectivités locales, régionales, pour un certain nombre de tâches qui reviennent à soi. Mais quand je disais tout à l'heure que c'est honteux de la part de Hollande, c'est que cette impression de nouvelle augmentation des impôts fait très mal aux Français parce qu'elle intervient après 3 ans. D'augmentation d'impôts sans interruption d'impôts nationaux, j'allais dire. C'est pour ça que c'est insupportable. Sinon, on admettrait peut-être l'idée. Quoique, je suis assez d'accord avec Gaël, c'est que les communautés récemment, les collectivités locales, pardon, sont parties dans un grand effort de mutualisation des tâches avec les communautés de communes, etc. Sauf, qu'est-ce qu'on a fait? On a mutualisé, mais on a aussi augmenté les effectifs locaux. C'est là où il y a un problème. C'est là où les municipalités et les communautés de communes ont mal géré leurs affaires. Donc maintenant, effectivement, il y a un excédent de fonctionnaires, c'est la vérité. On est obligé de virer les contractuels, qui sont généralement ceux qui travaillent le plus dans les collectivités, dans les mairies, et on garde les fonctionnaires qui sont très difficiles à licencier, comme vous le savez, parce qu'ils sont protégés. Donc c'est là où il y a un problème d'organisation. Je dis que leur rendement est un peu moindre que les contractuels qui ont tout intérêt à donner beaucoup plus dans cette affaire. Donc je trouve que de la part d'Hollande de tourner les talons quand quelqu'un de RTL l'interview là-dessus en disant c'est pas moi, c'est lui, c'est assez irresponsable de la part d'un chef d'État.
Alors moi, sur la gratuité des cantines scolaires, c'est quand même quelque chose qui me semble important. C'est vrai que si on arrivait à
une prise en charge que d'une partie du coût.
À Toulouse, la gratuité va disparaître pour les foyers qui sont les moins à même de la prendre en charge. Donc c'est l'idée que les élèves puissent venir avec leur repas. Ça, clairement, pour moi, ça creuse des inégalités. Enfin, moi, j'ai déjà vu, par exemple, aux États-Unis, des parents envoyer leurs enfants avec une tartine de beurre de cacahuète. Donc de fait, ça va continuer à maintenir les inégalités entre des parents qui ont une culture par rapport à la nutrition et ceux qui n'en ont pas. Je crois que la cantine, c'est quand même un lieu où on peut savoir qu'un enfant peut avoir un repas au moins équilibré par jour. Mais au-delà de ce détail, je pense qu'effectivement, l'augmentation de ces impôts est liée aux baisses des dotations par l'État. Ceci dit, beaucoup d'élus locaux ont fait campagne en faisant croire à leurs électeurs qu'ils allaient baisser les impôts locaux, que ces baisses de dotations sont annoncées depuis plusieurs années. Donc il y a quand même une certaine malhonnêteté dans cette manière.
Certains ne savaient pas que les caisses seraient vides quand ils arriveraient.
Oui, alors, enfin, on entend souvent ça à tous les niveaux, que ce soit à l'échelon local ou à l'échelon national. Et effectivement, moi, j'avais du mal à comprendre.
C'est pas pour ça que c'est
fou. Oui, mais c'est vrai que bon, la confiance dans les politiques s'érode d'année en année. Et l'autre question, c'est qu'effectivement, moi, je comprenais pas pourquoi la mutualisation de certains services, comme la collecte des déchets, ne générait pas d'économie. Et effectivement, si on a augmenté le nombre de salariés, ça montre qu'il y a quand même un problème de gestion et un problème, clairement, de formation des agglomérations pour savoir de quelle manière optimiser, en fait, cette mutualisation de services.
Daniel Villani.
Il y a une dotation de l'État aux collectivités locales pour établir une forme d'égalité. Est-ce que c'est un phénomène européen ou c'est spécial à la France? Ou bien est-ce qu'ailleurs, les municipalités ne se débrouillent pas seules, sans aucune dotation?
C'est une question avec en Europe un paquet qui sont des pays fédéraux où, d'abord en France, il y a une particularité sur le nombre de communes, le nombre de communautés de communes, le fait que dans d'autres pays européens, on donnait l'exemple de l'Angleterre, on pourrait aller plus loin avec les États-Unis où effectivement chacun se débrouille un petit peu comme il peut, ce qui n'est pas du tout ce qu'attendraient les Français. Ils sont très attachés justement à ce qu'évoquait Rokhaya il y a un instant, c'est-à-dire à l'idée de l'école comme socle de la République, de la laïcité, de nos valeurs. Mais vous avez raison, il serait intéressant de comparer, de faire un benchmark européen.
Allez, dans un instant, le beau contrat de 36 Rafales annoncé la semaine dernière cache peut-être une mauvaise surprise. On en débat dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
19h30 sur RTL, on refait le monde ce soir avec Jean-Christophe Buisson, Gaël Slimane, Rokhaya Diallo et Daniel Bilalian, la douche écossaise, donc des Rafales indiens. L'Inde a annoncé la semaine dernière, vous le savez, l'achat de 36 avions français, clé en main. Mais du coup, donc, on apprend aujourd'hui qu'elles remettent en cause les négociations portant sur 126 appareils avec transfert de technologie. Ce sera sans doute beaucoup moins. Alors, s'est-on emballé trop vite, trop rapidement, Jean-Christophe Buisson?
Pour l'instant, la seule chose dont on soit sûr, c'est que il y a eu un contrat qui a été signé directement avec Dassault pour cette vente, qui fait suite à un contrat avec l'Égypte de 24 appareils, ce qui fait 60 au total. L'annonce que j'ai vue à droite à gauche, selon laquelle peut-être ça remettrait en cause le contrat, elle n'a pas été certifiée ni par le gouvernement indien, ni par le gouvernement français, ni par Dassault. Donc pour l'instant, on est dans les supputations. On suppute que les 126 avions qui étaient supposés à peut-être un jour être vendus vont être remplacés par les 36, plus peut-être d'autres à terme. Mais ça, il n'y a aucune certitude là-dessus, parce que les négociations ne sont pas annulées. Officiellement, ne sont pas annulées, sont toujours en cours.
Oui, enfin, on comprend bien, selon les informations tout à l'heure de Christophe Decroix, que voilà, ce qui semblait être acquis ne l'est plus, et que peut-être qu'on va se contenter des 136, des 36, pardon.
Mais les deux lignes se croisent, parce que dans les 126, c'était 80% de la production se faisait en Inde.
Absolument.
Or, les Indiens se sont rendus compte que construire un Rafale, ça fait travailler 500 sous-traitants. Donc ça voulait dire qu'il fallait qu'il y ait 500 sous-traitants sur place en Inde, capables de construire un Rafale qui demande des connaissances à la fois technologiques, techniques, absolument hallucinantes. Et ils sont sans doute rendus compte que sur place, c'était compliqué et qu'il valait mieux peut-être en acheter moins pour l'instant, mais qu'il soit fabriqué de manière autonome. De la même façon, si vous avez un accident avec un Rafale, selon la pièce, vous allez vous tourner vers qui ? Vers l'Inde, vers la France, c'est très compliqué. Alors que
donc, ce que vous êtes en train de dire, que c'est peut-être une bonne nouvelle, non-décision.
Surtout une non-nouvelle pour l'instant. Parce que je sache, en tout cas, c'est officiel nulle part. Donc,
en tout cas, pas au Figaro, vous travaillez propriétaire
de même
groupe
que le montant. Je vous rappelle que le montant, il n'y a eu aucun montant qui a été avancé définitivement de la part des gens qui ont vraiment signé, c'est-à-dire François Hollande, le Premier ministre indien et Dassault.
Gaël Sliman, une fois qu'on a dit ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Français ? C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous.
C'est une bonne nouvelle a priori pour les Français. Ça faisait quand même un moment, sans offense pour Jean-Christophe Buisson, Dassault, etc. Ça faisait quand même un moment qu'on ramait, pour, si vous me passez l'expression, pour vendre des Rafales.
34.
Là, ça y est, ça fait deux succès en plus. Donc bon. C'est une bonne nouvelle pour
les
Français.
Deux succès, on en a parlé la semaine dernière. La nouvelle d'aujourd'hui, c'est que ça remettrait peut-être en cause les 126 qui semblaient acquis.
Oui, mais ne soyez pas...
Okay, du conditionnel.
C'est conditionnel.
Remettrait peut-être, alors que moi je vous donne des faits.
Alors, globalement, c'est quand même une bonne nouvelle sur la semaine qui s'écoule, et c'est aussi une bonne nouvelle pour François Hollande, puisque je disais tout à l'heure que sur le précédent sujet, ça risquait de lui retomber dessus quand même, cette histoire des hausses des impôts des collectivités locales. À l'inverse, il a plutôt bien réussi sur quelque chose sur lequel a lourdement échoué à plusieurs reprises Nicolas Sarkozy, qui avait annoncé à maintes reprises des ventes de Rafale, et à chaque fois c'était caramba, encore raté. Là, cette fois, ça a l'air de passer.
Donc ces 126 hypothétiques Rafales que...
C'était pas forcément des Rafales d'ailleurs, les 126.
Il me semble que si. il me semble que si, on va mettre beaucoup de conditionnels, on va changer de sujet. Autant de conditionnels sur tout ça.
Il y a des Twingo aussi.
Quand
vous m'avez parlé du sujet tout à l'heure, je me suis souvenu d'un repas que j'ai fait avant-hier avec un général qui me dit que de toute façon, les Indiens ne payent jamais.
Ah, alors là, c'est plus embêtant pour le Figaro.
C'était un général qui connaît bien le sujet et qui m'a dit, de toute façon, l'Inde ne paye jamais. La question qu'on peut se poser quand même, c'est aussi bien à propos de l'Égypte que de l'Inde, c'est qu'on ne s'est pas éternisé sur les modes de paiement, etc., etc. Qui va payer pour l'Égypte? Je ne sais pas, à ce jour. Je ne sais pas qui va payer.
Vous voulez dire que les États-Unis derrière pourraient
Je ne sais pas. Moi, j'entends. Je veux dire, pour moi, l'Égypte n'est pas un pays en pleine expansion. Mm-hmm. L'Inde, sans doute, un pays en pleine expansion.
Il y a moins de comparaison.
Mais alors, on peut aussi s'étonner quand même qu'il y ait un imbroglio dans cette affaire, parce que quand même, c'est Monsieur Le Drian annonce, le président de la République l'annonce lui-même. D'ailleurs, le président de la République, il annonce tout lui-même, y compris les accidents d'avion, etc., etc. Donc,
vous avez raison de dire que c'est sur la lancette son prédécesseur.
C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, elle peut être avec des effets inverses dans
un contrat signé par un premier ministre d'un pays et le président d'un autre, jusqu'à preuve du contraire, ça a quand même une valeur réelle. Sinon, on remet tout en cause aussi.
Écoutez, aujourd'hui, on est en train de le faire, de remettre en cause.
Parce qu'on parle des 126, vous, ça vous a inquiété en apprenant la nouvelle, Rokhaya Diallo? Vous êtes dit, on s'est peut-être emballé trop vite, ou alors...
C'est possible qu'on soit emballé trop vite. En tout cas, ce ne sera pas la première fois pour des rafales. C'est vrai que, étant donné le nombre de déconvenues qu'on a connues ces dernières années, d'emballement, d'attentes un peu optimistes, je pense que malgré tout, ça reste pour les finances de la France une bonne nouvelle. Et après, je ne m'y connais pas vraiment en fabrication, mais je crois que l'idée de départ, c'était un transfert de technologie avec une partie de la fabrication sur le sol indien.
Donc, à la demande de l'Inde, hein, de voilà, ce que j'avais
si
compris aussi.
Si le transfert de technologie ne se fait pas, peut-être que c'est aussi une bonne nouvelle pour nous, puisque ça nous donne aussi ça nous fait aussi garder la main sur les savoir-faire de fabrication de Rafale, et ça nous permet aussi de...
Bah, ça dépend, est-ce que si on n'en vend pas derrière, on garde la technologie, mais si c'est pour pas leur vendre derrière, on s'en fiche un peu, non ?
Ce qui est vrai, alors que tous les Français attendent une relance de l'économie, c'est vrai que c'est plus porteur que la loi Macron, avec les autocars qui peuvent circuler dans toute la France, et le fait que les notaires et les huissiers aient des honoraires un peu moins forts. Moi, quand on me dit la France va redémarrer, c'est on va vendre des trains, on va vendre des avions, on va vendre des choses comme ça. Oui, ça, je veux y croire. Là, je comprends, ça peut avoir un impact véritable sur l'économie française.
Et puis, après, si on pouvait redémarrer sans alimenter des dictatures militaires comme l'Égypte, ce serait peut-être un peu plus honorable, effectivement.
Et puis, cette vente a valeur aussi d'exemple, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pays qui sont peut-être intéressés, notamment les Émirats Arabes Unis ou le Qatar. Et puis, n'oublions pas que la France, dans la loi de programmation militaire, achète aussi des rafales. Et aujourd'hui, Dassault a-t-il la capacité de fournir dans les temps un parti, c'est-à-dire 2-3 ans, autant de rafales? Si la réponse est non, tant mieux, ça veut dire qu'il va falloir créer des emplois. Donc on ne peut que se réjouir de cette nouvelle.
Allez, on va s'en réjouir alors, Jean-Christophe Bisson, si vous le dites, à suivre. Elle y est parvenue. Elle sera demain sur RTL d'ailleurs. L'Assemblée a voté cet après-midi la loi santé de Marisol Touraine. Ouf, enfin pour elle, on en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchier.
19h39 sur RTL. On refait le monde ce soir avec Rokhaya Diallo, Daniel Bilalian, Gaël Slimane et Jean-Christophe Buisson. Elle a résisté à l'affronte des médecins opposés au tiers payant, au lobby du tabac opposé au paquet neutre. Elle a fait autoriser les salles de shoot. Elle a supprimé le délai de réflexion de l'IVG. Et bien Marisol Touraine, finalement, a remporté son combat. L'Assemblée nationale a voté en première lecture sa loi santé par 311 voix contre 241. Alors, sort-elle renforcée ce soir, Marisol Touraine, de ce parcours du combattant? Ou alors, elle y a laissé trop de plumes pour être crédible, Daniel Bilalian?
Bon, écoutez, moi, il y a des choses intéressantes et il y a des choses, moi, que j'admets mal, c'est le tiers payant. J'avoue que là, pareil, que l'impôt pour tout le monde, même minimum, dire ne pas se rendre compte quand on va chez le médecin que ça coûte de l'argent, c'est quelque chose qui me choque profondément. Ça me choque profondément. Bon, après ça, je vais vous dire, moi, sur un détail me plaît beaucoup dans cette loi, c'est l'oubli pour les cancéreux. Parce que
les assurances pour pouvoir contracter un crédit, par exemple.
Personnelle, j'ai employé Laurent Fignon jusqu'à la fin de sa vie, donc consultant cycliste. J'ai employé Patrice Dominguez jusqu'à la fin de sa vie. Et je me suis toujours efforcé de fait qu'il ne soit pas deux fois malade, c'est-à-dire une fois malade et une fois renvoyé chez eux en disant écoutez, c'est pas la peine d'apparaître en public, ça la fout mal. Et à l'enterrement de Laurent Fignon, le professeur Cayatte, le cancérologue, m'a dit vous savez, monsieur Bignon, vous avez rendu un grand service aux malades. Parce que vous avez montré, en le mettant à l'antenne, qu'il ne fallait pas que ces gens-là aient deux peines, c'est-à-dire à la fois la maladie et l'exclusion de la société. Ça m'a beaucoup touché.
Alors okay, là, sur le tiers payant, c'est vrai que je suis plus réservée par rapport à l'avis que vous avez pu exprimer, dans le sens où je trouve que c'est quand même important que les gens n'aient pas nécessairement à débourser de l'argent lorsqu'ils se rendent chez le médecin. Je peux comprendre effectivement la crainte des médecins de ne pas que les délais administratifs fassent qu'ils soient payés trop tardivement. Donc c'est effectivement quelque chose auquel il faudra être vigilant, mais je crois que c'est quand même important qu'on puisse, comme c'est le cas par exemple en Allemagne depuis très longtemps, aller chez le médecin sans avoir à débourser des sommes que parfois on ne dispose pas. Moi, je trouve que Marisol Touraine s'en sort pas mal parce que j'ai lu un sondage qui disait que quand même 88% des médecins lui en voulaient. Finalement, la loi a été commentée beaucoup au sujet du tiers payant, mais il y a d'autres dispositions intéressantes. Effectivement, le droit à l'oubli pour les cancéreux, mais par exemple l'abolition du délai de réflexion quand on fait un IVG, en fait, normalement, on doit avoir deux consultations avec une semaine entre les deux consultations. C'est une semaine qui était souvent une vraie difficulté psychologique pour les femmes qui devaient attendre. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est une bonne chose parce que pour moi, c'était quelque chose assez archaïque qui laissait entendre que peut-être que la morale allait regagner ces jeunes femmes. Donc il y a plein de choses dans cette loi finalement dont on a peu parlé, mais qui pour moi sont des avancées.
Jean-Christophe, sur l'aspect politique, Marisol Touraine, pas sur les aspects du texte, mais à un moment donné, on a pensé qu'elle était lâchée par François Hollande, qui expliquait que sur le tiers payant, il fallait peut-être pas s'entêter, on verrait si c'était si facile que ça à mettre en place.
C'est une loi un peu fourre-tout, donc forcément, l'avantage des lois fourre-tout, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve toujours dans une de ces dispositions.
Et
donc,
là, elle se retrouve quasiment dans toutes les dispositions.
Et surtout, c'est une loi sociétale qui est beaucoup plus facile à faire passer qu'une loi économique, par exemple, la loi Macron. D'ailleurs, il a fallu une 49-3 pour la faire passer. Pourquoi ? Parce qu'en plus, il n'y a pas de frondeur sur le fond, parce que finalement, la gauche, aujourd'hui, étant très divisée, se cassant le nez sur un certain nombre de mesures politiques et économiques, au moins sur ces mesures-là, les gens de gauche s'y retrouvent à peu près. Vous dites que les médecins, mais les médecins, on sait très bien qu'à 80% ils votent à droite, donc c'est pas dur de contourner l'opposition des médecins quand on est de gauche. Donc c'est pour ça que je trouve pas que ce soit un exploit particulier de sa part d'avoir fait passer cette loi qui d'ailleurs va être toquée au Sénat mais qui reviendra à l'Assemblée nationale, parce qu'encore une fois, il y avait pas le timing était bon pour elle, surtout que c'était pendant la campagne des départementales et que les frondeurs ayant pris eux-mêmes une claque aux départementales, ils allaient pas faire opposition sur une loi dont la plupart des dispositions encore une fois leur agréent. Donc vous savez, souvent quand un ministre fait passer une loi, généralement on lui prédit un avenir assez glorieux de ministre régalien ou de premier ministre, et c'est bizarre, j'ai l'impression que personne se dit que Marisol Touraine est une personnalité politique qui va dans les prochaines années s'imposer au premier plan, ce qui prouve bien que cette loi n'est pas une loi à mon avis essentielle, en tout cas d'un point de vue politique,
d'un point de vue pratique elle va changer la vie de pas mal de Français. Comment l'opinion,
c'est pour ça que je disais politique,
la crédite Gaëlle Sliman, Marisol Touraine après ce long combat, et qui a été assez dur. Elle a été comparée à l'Assemblée par des députés UMP à une MST, maladie sexuellement transmissible, dans des tweets. Elle avait les larmes aux yeux.
Alors elle y a laissé des plumes en termes d'opinion. D'abord, pour situer les choses, on a justement un rendez-vous d'Oxa qu'on publie aujourd'hui dans les Échos qui montre que 62% des Français sont favorables à la généralisation du tiers payant. Mmh. Et c'est une mesure qui est assez stable. C'est-à-dire qu'elle a déjà été posée à plusieurs reprises cette question, et on voit que dans le temps, on a en gros 6 Français sur 10 qui sont favorables. Mais comme rien n'est simple...
Vous êtes dans les 4 sur 10, Daniel Bilalian.
Mais pas tout à fait, parce que comme rien n'est simple, Daniel Bilalian, et que nous sommes tous un peu schizophrènes, on avait, dans un précédent sondage le mois dernier, posé un certain nombre de questions autour de la loi santé et de la généralisation du tiers payant, en testant aussi les arguments des médecins. Et on se rendait compte qu'on avait une majorité de Français qui pensaient que, même s'ils étaient favorables à la généralisation du tiers payant, parce qu'ils disaient que c'était juste socialement, eh bien ils disaient aussi que c'était une mesure qui serait économiquement coûteuse pour la société, parce que ça incitera probablement les patients à être moins attentifs à leurs dépenses de santé. Mmh. Et surtout, les gens étaient assez d'accord avec les critiques que faisaient les médecins sur les difficultés concrètes que ça leur ferait rencontrer à eux dans leur vie quotidienne de médecin, sur l'avance de l'argent, sur les paperasses, etc. Et du coup, dans le même sondage, le mois dernier dans le Figaro, on avait une majorité de gens qui nous disaient déjà on est favorable au projet de loi santé, à la généralisation du tiers payant, et une majorité qui nous disait et on est favorable à la manif des médecins qui manifeste justement contre ça.
Vous faites un dur métier.
Oui, mais par contre, pour répondre à votre question sur la conclusion de est-ce qu'il y laisse des plumes ou pas, on publiait la semaine dernière dans Challenge un baromètre économique où on testait les ministres les plus populaires du gouvernement, ceux qu'on souhaitait voir garder en cas de remaniement notamment, et on voyait que celle qui a arrivait en queue de classement avec le ministre du Travail qui a fort affaire en ce moment, François Rebsamen, eh bien c'était justement Marisol Touraine, loin loin derrière les ministres régaliens du type Cazeneuve, Fabius ou Emmanuel Macron, qui a porté une loi peut-être plus difficile, mais qui lui a rapporté plus en termes d'opinion finalement.
Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'un peu paradoxal ? Je ne sais pas si c'est ridicule ce que je veux dire ou pas, mais d'un côté les paquets de cigarettes neutres et de l'autre côté l'ouverture des salles de shoot.
Oui, il y a une logique là-dedans, puisque les salles de shoot, c'est pour... Oui, absolument, voilà.
On peut être pour ou contre, mais... Et vous avez, si vous voulez même être dans le paradoxe, dans la même loi le paquet neutre pour limiter la cigarette, le tabac, et en même temps, l'interdiction de vapoter dans les lieux publics.
L'interdiction de fumer en présence d'un mineur dans une voiture.
Voilà.
De vapoter, oui.
De fumer,
ça viendra, vous inquiétez pas.
En tout cas, on peut débattre de l'efficacité de la mesure de la salle de shoot, mais en tout cas, le motif, c'est de santé publique, donc il y a une logique à ça. Vous pourrez interroger Marisol Touraine demain, puisqu'elle restera avec vous à 8h15 sur RTL, après avoir été interviewée par Jean-Michel Apathy. Dans un instant, Michel Polnareff qui dit non à la pub, c'est LM.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde, Marc-Olivier Fauchier.
On refait le monde à 19h49 avec Daniel Bilalian, Rokhaya Diallo, Gaëlle Sliman et Jean-Christophe Buisson. 1 100 1 100 000, ouais. C'est un gros chiffre. 100 000 d'euros, hein, il faut dire. C'est donc la somme que demande Michel Polnareff à CTLM. Le chanteur se dit ridiculisé par la pub de la société de crédit qui se sert d'un de ses sosies depuis 2011. Il attaque la marque pour atteinte au droit à l'image, au droit patrimonial et à la dignité dans le cadre d'une utilisation commerciale de sa personne. Alors vous comprenez Michel Polnareff ou vous le trouvez ridicule sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Il est en plein craquage, Polnareff. Aussi peu d'autodérision à son âge, c'est quand même chaud, tacle le grand poireau. C'est vrai qu'il s'en prend plein la tronche à quand même quelques fans comme Antoine qui estime que l'amiral a bien raison, il l'appelle l'amiral sur les réseaux. Quand il n'y a pas d'autorisation, c'est normal qu'il y ait poursuite. L'avocat Maître Aiolas leur donne d'ailleurs raison. « Je suis avec toi », écrit Elisa, « pub pitoyable qui se sert de ton image iconique pour vendre au plus faible des crédits à taux d'usurier. Ouais, son ennemi, c'est la finance, ricane Thierry. N'importe quoi, c'est pas de lui dont on se moque, mais des sosies. Ah là là, soupir clos. Christophe Comte, des Arocs s'étonne. Polnareff attaque CTLM alors que la pub passe depuis 4 ans. Selon mes calculs, en 2023, il portera plainte contre son coiffeur. La plus grosse atteinte au droit à l'image de Polnareff ces dernières années, ça reste quand même Michel Polnareff lui-même, persifle Benjamin. Et on ressort les photos de ses tenues passées et actuelles. Il paraît que tous les bichons à poils frisés de France portent plainte contre Polnareff, s'amuse Splash. Ce sosie rappelle aux Français qui est Polnareff. Il devrait plutôt le remercier, s'énerve Johan. En chute de popularité, Polnareff se raccroche à ce qu'il peut pour se renflouer, soupire José. Et c'est vrai qu'il y a un album et une expo prévue très bientôt. Pablico pense que c'est tout simplement le début de sa promo. On parle de lui et ça marche.
Jean-Christophe Buisson, finalement, un artiste qui se sent blessé, ridiculisé par la publicité qui le met en scène. Ça peut s'entendre, un artiste, c'est...
Quand est-ce que vous avez porté plainte contre Canal+, avec votre marionnette?
Mais moi, je ne suis pas artiste, je suis journaliste, comme vous le savez.
Vous êtes aussi un artiste.
Oui, mais un artiste, en plus, il est en pleine composition, Michel Polnareff, de cet album. Ouais, et donc, peut-être que ça le fragilise.
Ça fait longtemps qu'il est en composition.
Oui, mais là, il y est vraiment. Donc,
Oui, je sais, depuis 2 mois à Bruxelles. En l'occurrence, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a 6 mois, il avait taclé Obispo, qui gentiment disait, et c'était pas ironique en disant qu'il est fan absolu de Polnareff, lui proposant de l'aider. Il a taclé sur Twitter. J'ai l'impression que Polnareff fait partie de ces stars qui ont besoin d'exister tous les 6 mois, tous les ans, pour des raisons d'ailleurs peut-être commerciales, j'en sais rien. Mais donc moi je trouve ça ridicule de porter plainte contre CTLM dans cette affaire. Effectivement, pourquoi il ne l'a pas fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans?
Parce qu'il le découvre peut-être.
Non, 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 il ne le découvre pas, parce que lui-même dit ça fait 1 an que tout le monde m'en parle, en pensant qu'il touche de l'argent grâce à cette publicité. Donc il le sait très bien. Moi je pense qu'il a vraiment besoin. Et puis c'est exaspérant, ces stars qui ne supportent pas qu'on se moque d'elles, qu'on les critique, qui supportent quand on parle d'elles en bien, en disant vous êtes formidable, vous êtes beau, vous êtes génial. Mais dès qu'on les égratigne un peu, et je pense que la caricature fait partie du jeu, elle ne le supporte plus. Donc moi, je trouve son attitude un petit peu ridicule.
Moi, je trouve que celui qui devrait porter plainte, c'est le personnage qui est imité en vert par le représentant de CTLM. Celui-là, si je le connaissais, je comprendrais. Je le connais pas, mais il doit exister, puisque tout le monde existe dans cette affaire. Puis il y a Marilyn, bon, elle est décédée, mais elle aurait pu porter plainte aussi, parce qu'il ne la favorise pas tellement. Mais non, je trouve que c'est un peu grotesque. Je veux dire, puis c'est un signe de célébrité. Je veux dire, c'est au contraire, je veux dire, ça veut dire que c'est une grande vedette et que. Je comprends pas.
Il n'est pas à son avantage, on va dire. Dans le
podium de Yann Moix, ce n'était pas à son avantage non plus.
Et mais la publicité est tellement drôle que. Elle est drôle, la publicité. Elle est énorme, elle est magnifique. On ne porte pas plainte. Si, il y a des publicités qui peuvent. Mais celle-là, non, je ne comprends pas.
Ouais, parce que j'ai du mal à comprendre,
c'est que vous ne le connaissez pas, c'est Polnareff. Ouais. Pour le connaître, je comprends sa réaction. Moi.
Lorsque Yann Moix fait podium, pourquoi il ne s'énerve pas et pourquoi
Parce qu'il a collaboré à podium et à Yann Moix, donc il avait l'impression de participer à sa caricature. Là, il le découvre.
Oui.
C'est-à-dire que je comprends, moi, qu'il soit blessé, offensé, c'est un sentiment humain et je pense que personne n'apprécie d'être imité et moqué de cette manière-là. Après. Moi, ce que je comprends pas dans l'argumentation de l'avocate, c'est qu'on a le sentiment que c'est lui qui est dans la publicité, alors qu'on voit manifestement que c'est un sosie, c'est un personnage qui est beaucoup plus rond que lui, qui a un double menton. Enfin, on voit que c'est pas Polnareff, c'est quelqu'un qui est déguisé. Et en face de lui, on a une fausse Marilyn, un faux Michael Jackson. On sait que ces personnes ne sont pas Michel Polnareff, que ce sont des gens qui sont des sosies un peu ratés en plus.
Alors donc, le sosie, c'est un peu raté. Je vous interromps une seconde. Il s'appelle Jean-Louis Barcelona. Il était tout à l'heure chez Laurent Ruquier aux Grosses Têtes. Je vous propose de l'écouter, parce que
écoutons-le.
Écoutons-le déjà, il était tout à l'heure chez Laurent.
j'adore faire ce personnage. C'est un comédien qui essaie de faire, Paul Naref, qui n'arrive pas vraiment, voilà. Et il y a Paul Naref, Marilyn, Michael Jackson, Louis Lee aussi, on est cinq. Ouais. On se voit et on s'adore et on adore jouer ensemble, on rigole comme des bossus.
Vous comprenez Paul Naref ou pas dans sa décision de porter plainte?
Oui, bah, après se réveiller au bout de 5 ans.
Est-ce que vous pouvez nous chanter pour vérifier que vous n'êtes pas du tout Paul Naref? Un tube, un extrait d'une chanson de Michel Paul Naref.
Love me, please love me.
Ah, l'excellent Jean-Louis de Barcelona, donc, qui était au Gros Tête tout à l'heure avec Laurent Ruquier, Gaël Slimane.
Bah, Il y a deux sujets dans la plainte de Paul Naref. Le fait de ne pas supporter la moquerie, alors que, comme on l'a tous dit, c'est un sosie. Donc c'est le même principe. Je crois qu'il s'appelait, le personnage joué par Jean-Paul Rouff s'appelait Couscous dans
absolument.
Donc c'est le même principe. Ça ne tient pas la route une demi-seconde de critiquer parce qu'un sosie mal fait vous porterait préjudice. En revanche, il y a un aspect économique. L'aspect économique qu'on entend aussi en filigrane, c'est que demain, un annonceur qui aurait eu envie de prendre Paul Naref pour faire une vraie pub, mais cette fois le vrai Paul Naref.
Il en a fait, d'ailleurs. Il en a fait des pubs.
Ben, oui, mais.
Enfin, pas à l'image, mais avec ses chansons.
Ça pourrait éventuellement le dissuader ou faire baisser la valeur marchande du Paul Naref dans une pub. Et ça, ce serait davantage compréhensible comme reproche.
Comme Johnny Hallyday, par exemple, que Laurent Gérard imite tous les jours en disant « Ah, que je suis content !»
Et c'est pas dans une pub, peut-être, je sais pas.
Il pourrait aussi trouver qu'il est ridiculisé en permanence. Il le fait pas.
Et moi, honnêtement, je trouve que ça porte pas préjudice à l'image de Paul Naref, mais de tous ces gens qui sont des sosies.
Ça rappelle qu'il est vivant, surtout.
Parce qu'il y a une autre théorie, c'est celle d'Alexandre Arvaux de Libération, qui dit, lui, que ce qui l'a sûrement vexé, c'est d'être, on a écouté la liste, c'est d'être qu'avec des stars mortes et qu'il était peut-être vexé qu'on l'enterre un peu.
Je vous propose de faire un petit best-of des chansons de Michel Paul Naref, histoire de terminer en beauté, tranquillement, parce que au moins ça va permettre ça.
Même les sosies.
Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux. Toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue.
Moi je vais continuer, il en a plus, Grégory, de chanson de Paul Naref.
Je suis un homme,
quand même.
Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Pour lui, mon style correspond bien à mon état civil. Je te donnerai.
Allez, on va s'arrêter là. Tous les bateaux, tous les oiseaux. Bon, il a beaucoup de talent, en tout cas, Michel Paul Naref, on est d'accord? Merci à tous les quatre. Merci à Gaël Slimane. Merci. Goodbye, Marie-Lou. Jean-Christophe Buisson, Daniel Bilalian et Rokhaya Diallo. Dans un instant, le flash de 20h. Et puis votre soirée Ligue des Champions sur RTL. Avec évidemment donc Monaco Juventus aux commandes. Ludovic van de Kerkhoff, Sylvain Charlet, et ils seront là dans un instant donc également le flash de 20h avec Julien Célier, tout de suite.
Vous écoutez RTL.